Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Au banquet des convives, au banquet des convives, vous sous la table roulez. Apprendre des coups de pied, apprendre des coups de pied. Marie a chuté dans le pré. La marée a chuté dans le pré. On a coupé les ponts, jeté les clés, coupé les ponts. Jeter les clés, couper les ponts, jeter les clés. Qui seront les prochains noms? Seront les prochains noms. Rendez-vous à la surface. Rendez-vous sur la place. Rendez-vous en surface. Rendez-vous devant une glace. Devant une glace, devant une glace, devant une glace.
Bonjour, l'interview sur RDIWA. Aujourd'hui, nous sommes avec Hervé André. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Radio DIWA.
Tu viens jouer à La Forge vendredi 24 novembre à partir de 18h. Il y aura aussi une petite exposition de tes dernières créations graphiques. Hervé, tu es parmi nous pour déjà nous parler de ton album hein, qui est sorti en 2016, issu de Tissu. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ce titre ?
Alors le titre, je pense qu'il parle d'un rapport organique au son, si je puis dire. Parce que ce disque, il est en fait construit autour essentiellement de l'acoustique et de la matière du son acoustique, où il y a beaucoup à faire, voilà, avec quelques autres personnes avec qui j'ai collaboré. Et pour les nommer, donc il y a Jérémy Dessertine qui travaille avec un générateur électroacoustique. Il y a Marcel Prévost qui fait de la guitare, quelquefois des percussions. Il y a Véronique Verdier qui fait des percussions, un peu de chœur. Et puis il y a Stéphane Paulin qui fait une guitare électrique sur un des morceaux. Et puis il y a mon petit garçon qui fait un chœur sur une chanson aussi. Voilà.
Cet album, c'est le combientième pour ce que tu as créé ?
En fait, je crois que c'est le onzième. Onzième album autoproduit. Donc, je dirais, je fais des albums comme on fait des peintures, en fait. Elles mûrissent longtemps et puis ces titres, par exemple, il y en a quelques-uns qui ont été enregistrés déjà dans une autre version. Mais il y a 12 titres. Et c'est surtout les arrangements qui étaient en question au niveau du travail. Parce que bon, ça reste mes textes et mes compositions. Ce que je voulais faire avec d'autres musiciens, c'est un peu tresser comme ça des dynamiques de son, d'autres instruments. Mais vraiment, j'insiste sur l'acoustique. Même d'ailleurs, quand il y a le générateur électroacoustique, pour moi, ça fait partie de l'acoustique parce que c'est pas parce qu'il y a une petite amplification sur cet instrument-là. C'est la logique plutôt d'enregistrer, par exemple, le titre Émissaire, il a été enregistré en prise directe dans l'atelier, une journée. Il y a eu deux prises et j'ai gardé la première prise. Alors en fait, tout le travail est fait en amont. Pendant les répétitions, les rencontres, on met en place. Et voilà, donc ça reste un disque qui garde la trace du moment, en fait, d'une réalité d'écoute entre les musiciens. Disons que je préfère cette formule-là plutôt que d'être dans des studios isolés, chacun dans sa boîte, et puis après de faire des re-re, où c'est une bonne formule, hein, mais là c'était autre chose. C'était vraiment la musique en train de se faire, une grande écoute. On n'a pas de curseur pour gérer les niveaux. C'est chaque musicien qui gère son niveau, et donc ça implique une vraie écoute mutuelle.
Tu parlais de prise de son en atelier parce que tu as un atelier et oui. Comme étant aussi plasticien ou artiste peintre.
Moi, je dis même pas plasticien. Je fais des dessins et des peintures. Je fais ça depuis l'enfance et je fais ça intensément depuis longtemps. J'ai eu un premier instrument quand j'avais 9 ans et j'ai fait une première expo quand j'avais 13 ans. J'ai fait ça des fois avec des gens en atelier, mais beaucoup en autodidacte, donc je suis mon chemin comme ça. Donc l'atelier, par exemple, à Marseille, c'est aussi un lieu de concert, c'est aussi un lieu d'enregistrement. Et disons que toute cette production mise ensemble, c'est la même maison, si on veut. C'est des pièces différentes, mais au fond, quelquefois, des dessins déclenchent des textes qui deviennent des chansons. Et voilà, il y a un tressage entre tout ça. Pour moi, ça fait partie de du même tonneau, si on veut.
Oui, quand on voit les pochettes de tes albums que tu confectionnes toi-même, elles sont plutôt du domaine artistique puisqu'elles sont très élaborées. Est-ce qu'on peut retrouver la même chose dans ta musique? Enfin, je veux dire, dans ta peinture, est-ce qu'on retrouve ta musique?
Il y a eu des moments où, je te disais, certains textes qui étaient d'abord des textes qui accompagnaient des dessins sont devenus des chansons. Et là, ces derniers temps, oui, il y a une ou deux peintures dont j'ai mis des titres assez imagés, en fait, peut-être qui sont presque comme des récits en eux-mêmes, des très très courts récits. Le titre, il décrit une situation qui n'est pas toujours en relation avec la peinture. Mais du coup, finalement, il y a un foisonnement là. Le titre devient presque un texte et certains passages sont devenus une chanson récemment. Ouais. J'ai une peinture, par exemple, qui s'appelle... j'ai fait des formes assez comiques, grotesques, un peu issues de la bande dessinée, mais pas tellement, finalement, plutôt du surréalisme, où en fait je personnifie des objets. Voilà, les objets deviennent un peu des personnages. Ces personnages, il a fallu que je leur donne un prénom. Finalement, je ne comprenais pas ça tout de suite, mais au bout d'un an, là, de certaines peintures, j'ai vu que c'était bien de leur donner un prénom à ces personnages. Et voilà, ça peut devenir un texte de chanson.
Oui, ta peinture, tu parlais de surréalisme, avec des personnages étranges. Est-ce que tes chansons, tu les visionnes-t-elles aussi ?
Ce que j'essaie de faire avec les chansons, en fait, la plupart du temps, c'est la... J'allais dire, il y a une suite harmonique d'accords qui arrive, un canevas harmonique, une suite d'accords, quelques notes. Alors ça, je fais ça tourner régulièrement pour moi, quoi, quand j'ai le plaisir d'entendre une suite qui m'intéresse. Et le texte vient ensuite. Alors, je n'écris pas à proprement parler des textes en me mettant à une table. Je fais quasiment jamais ça. Le texte, il vient, j'allais dire, porté par la musique, qui est un déclencheur. Donc le texte, ensuite, il synthétise, je dirais, toutes sortes de choses qui sont là dans ma pensée depuis un moment, quoi. Parce que ce n'est pas non plus une irruption spontanée comme ça, là, qui sort de nulle part. Je pense que je vois bien que mes textes, finalement, ils reprennent des choses qui me questionnent pendant un certain temps, des bouts de phrases. Et en général, en fait, ce qui fait le texte, c'est le déclenchement d'une phrase. Par exemple, j'ai une nouvelle chanson là, qui s'appelle « Me faudra-t-il traverser la Manche ?» Elle est venue, la musique était là, mais la chanson est venue juste après que j'ai écrit un mail à une amie. Et je ne sais pas, dans le corps du mail, j'ai mis cette phrase qui m'est venue à l'esprit, « Me faudra-t-il traverser la Manche ?» Et je crois que quelques jours après, tout le texte a défilé. Donc voilà, ce n'est pas volontaire, je ne me mets pas en tant qu'écrivain volontaire de chanson. J'attends que ça surgisse, en fait. Voilà.
C'est un peu de l'écriture automatique ?
Oui, il y a un peu de ça. Mais en fait, c'est le son de la phrase. Tu vois, par exemple, si je fais ça. Il y a cette suite d'accords. Me faudra-t-il traverser la Manche ? Là, je peux la faire, peut-être. Me faudra-t-il traverser la Manche, partir outre-Manche, pour obtenir que tu t'épanches. Me faudra-t-il traverser la Manche, partir outre-Manche. Qu'allais-tu faire en Angleterre, sinon te taire? Mais vrai, les anges sont par terre, leur bouche emplie de terre. Qu'allais-tu faire en Angleterre, sinon te taire? Me faudra-t-il traverser la Manche, te couvrir de fleurs blanches, pour obtenir que cessent les revanches? Me faudra-t-il traverser la Manche? Oui, mais moi j'aime
les aventures sans montre étanche. J'aime les aventures sans montre étanche. Que ma soif dure, que jamais elle ne s'étanche. Que jamais ma soif ne s'étanche. Que jamais ma soif ne s'étanche. Jamais ma soif ne s'étend.
Tu as des influences musicales?
Oui, bien sûr, comme tout le monde. J'ai aimé beaucoup de choses très différentes à une époque. Je dirais que les derniers temps, j'ai bien aimé des indépendants américains comme Vic Chestnut, par exemple. J'ai vraiment adoré sa musique, le personnage, tout ce qu'il faisait, quoi. Mais aussi des gens, il y a très longtemps, comme Syd Barrett. Je crois que c'est un des premiers, par exemple, qui m'a vraiment touché. Peut-être parce qu'il a à la fois des mélodies... simple, une façon de chanter qui ne fait pas trop d'effet, mais il a des textes très intéressants. Et puis il y a un côté rhythm and blues plutôt. Je voulais dire rythme en fait, j'ai dit rhythm and blues, mais en fait il a quelque chose avec le rythme et le blues. Et en fait j'aime bien le blues, je crois qu'une des origines, des influences, ça a été ça, le blues le plus ancien, le blues acoustique. Ce qu'a collecté Alan Lomax, par exemple, dans les campagnes américaines. Et puis après, tellement d'autres choses. J'étais dingue de Magma quand j'étais adolescent. Donc du coup, j'ai écouté Coltrane, j'ai écouté Stravinsky, j'ai écouté de la musique contemporaine. En fait, j'ai voyagé dans beaucoup de choses, mais je ne sais pas s'il en reste des traces dans la musique. Oui, je crois. Je crois dans ma musique, si je fais par exemple, j'ai fait cette boucle un peu étrange. Et puis dessus, j'ai monté au clair de la lune. Mais pas vraiment le chant, en tout cas. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Clair de la lune, Pierrot répondit. Je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est. Car dans la cuisine, on bat le briquet.
Alors ça, c'était un morceau du dernier album, Dans mon lit, c'est ça?
Oui.
Pourquoi cette chanson, tu la chantes depuis un moment, elle revient sans cesse et elle est un peu un leitmotiv pour toi quelque part?
Au clair, dans mon lit, cette chanson, je crois que ce motif de guitare, il est apparu il y a longtemps sous mes doigts, pendant que, enfin, je pense que c'était au début des années 80. Et puis, je l'ai utilisé des fois comme exercice. Et puis, ça m'a intéressé, en fait, de monter comme ça, d'hybrider des choses assez diverses, quoi. Parce que ce motif, en fait, il est assez atonal. Il procède comme ça par aller-retour, descente et montée. Une suite de tons, de demi-tons. C'est difficilement situable. Et collé dessus au clair de la lune, je ne sais pas, c'est à la fois lié à quelque chose de très simple, comme une tradition populaire qu'on connaît tous, c'est une chanson qu'on connaît tous, qui est liée à l'enfance, et puis c'est en faire autre chose, c'est y ajouter d'autres références, quoi, parce que ça pourrait être la musique de Berg, je ne sais pas, le dodécaphonisme ou autre chose. Donc, voilà, j'aime bien croiser des choses, en fait. C'est mixte et une mixture.
Hervé, mis à part parfois tes peintures ou tes dessins qui t'inspirent certaines chansons, qu'est-ce qui te pousse à en créer?
Quelquefois, c'est... J'écris beaucoup de choses d'une manière, disons, un peu que quelqu'un qualifiait d'impressionniste, si on ne veut pas forcément trop se pencher sur le sens des choses. Par exemple, la chanson précédente, « Me faudrait-il traverser la Manche ?» Je pourrais dire que je n'ai pas du tout réfléchi à ce sujet. Je ne sais pas ce que c'est ce thème, en fait. Je ne sais même pas s'il me concerne. Par contre, il y a des fois... j'ai envie de dire quelque chose de plus précis. Et là, j'ai une nouvelle chanson récente qui est une forme de blues un peu critique sur l'art et les artistes et la fonction de l'art et des artistes aujourd'hui. Et par exemple, ça, ce sont des choses que je me formule depuis de longues dates parce qu'étant donné que je me débrouille qu'avec mes moyens, dessin, peinture, musique pour vivre... Des fois, je suis un peu critique sur ce qu'on fait de la culture, quoi. Aujourd'hui, à quoi elle sert, quoi. Voilà.
Toi qui es à Marseille, comment as-tu vécu cette ville, Marseille, capitale européenne de la culture?
Eh ben, à l'écart, d'une façon tout à fait à distance, quoi. Parce que je me pose beaucoup de questions sur l'utilisation. Il faudrait dire d'une certaine culture, quoi, qui est une culture qui est passée par de multiples filtres pour convenir à certains objectifs. Alors que pour moi, la création, c'est quand même un espace qui est lié peut-être au rêve au sens général, pas le rêve, un peu le rêve, toutes les dimensions du rêve, c'est-à-dire aussi la dimension cauchemar, la dimension du désir, la dimension des fois de la violence, des fois la dimension aussi de choses extraordinaires, hybridées. C'est-à-dire, je parle de la... pas le rêve comme on l'entend quelquefois, le petit truc qui nous fait nous évader. Je parle du rêve dans sa dimension humaine, quoi, comme trace de tout ce qu'on contient, qui peut nous agiter des fois. Donc en fait, ma source, c'est souvent celle-là. Autant dans les dessins et les peintures, évidemment les pensées conscientes. Et je trouve que cet univers-là, la plupart du temps, il est exclu aujourd'hui de ce qu'on appelle une culture qui a des objectifs de favoriser le tourisme. Donc on va éliminer tout ce qui dérange, en fin de compte, tout ce qui questionne, quoi. Et on finit par avoir des produits culturels qui ont été sélectionnés pour remplir un objectif. Mais moi, je ne crois pas que ce soit... pour moi, en tout cas, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une création, quoi. Voilà, ce n'est pas ça, la création. Moi, j'ai envie d'utiliser tout ce qui m'agite, tout ce qui nous agite, en plus, les uns et les autres. Voilà.
Tu trouves que l'art est devenu sclérosé?
Je pense qu'il y a un art très très vivant aujourd'hui, extrêmement prolifique, mais qui ne trouve plus à se diffuser dans les canaux officiels, institutionnels, ou même alternatifs, associatifs souvent. Parce que les gens ont tellement besoin d'un certain type de public que des fois j'ai l'impression que ça ressemble ce qu'on nous propose au téléfilm européen qu'on proposait dans les années 90 sur les chaînes. C'est-à-dire il y avait une production européenne. Alors en Allemagne, il ne fallait pas parler des Turcs. En Italie, il ne fallait pas parler du pape. En Angleterre, il ne fallait pas parler de telle affaire. En France, il ne fallait pas parler de la colonisation, etc. Ce qui fait que pour convenir aux producteurs, on éliminait tous les sujets qui y fâchent. Et puis, on avait un produit des plus tristes, finalement. Parce que je crois quelque chose qui est fort, ça part quand même toujours de l'affectif et de ce qui nous vrille, de ce qui nous touche, de ce qui nous émeut, de ce qui nous met des fois en colère, aussi de quelque chose qui nous permet d'ouvrir un espace. Et malheureusement, les gens qui sont les décideurs de la culture aujourd'hui, je crois qu'ils ont des objectifs très précis qui ne correspondent pas du tout à ça. Ils ont besoin que le soutien économique, de soutenir le tissu économique local. Donc, on ne va pas parler de ça parce que c'est pas porteur économiquement pour eux. Donc, il y a tout un pan de la culture qui est de la création, surtout, qui est pas représenté. Donc moi, je ne sais pas tellement comment faire aujourd'hui.
Au-delà même déjà d'une politique un peu gelée de la culture en France, quand bien même des expositions sont proposées, là apparaissent aussi des groupes de personnes un peu extrémistes qui veulent faire fermer le lieu pour
bien sûr.
Une thématique qui bien les sûr. Heurte.
Bien sûr.
Voilà, donc...
Bien sûr.
C'est un contexte c'est aussi.
C'est net qu'il y a des pressions dans tous les sens. Actuellement, je dirais que je n'ai pas de censure sauf la mienne, puisqu'on est toujours aussi son propre censeur dans bien des cas. Et c'est avec ça qu'on travaille. Quand on est un créateur, on essaye de lever un peu ce contrôle sur ce qui est en train d'apparaître. Autrement, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Souvent, je trouve que la seule solution, là, ces derniers mois, ces deux dernières années, c'était d'accrocher dans l'atelier parce que c'est le seul endroit où je n'ai pas de compte à rendre pour montrer mon travail. Voilà. Donc, c'est un constat actuel. J'espère que ça peut évoluer. Je ne sais pas. Vraiment, je n'ai aucune réponse sur la question. C'est vrai que c'est très... On peut être très perplexe par un moment. Hein. Voilà.
Hervé, je crois avoir compris que tu viendrais fin avril faire une petite tournée sur le Diwa. Est-ce que tu pourrais nous préciser ?
Oui, pour le moment, il y a deux dates, le week-end du 29 et du 30 avril, qui sont arrêtées. C'est chez Valentina, en Darta. Enfin, l'association, c'est en Darta maintenant. Je dis Valentina parce que j'ai joué déjà deux, trois fois là-bas par le passé. Maintenant, ça s'appelle Andarta. Et donc, je vais jouer le samedi 29 avril, je crois, ne pas me tromper, à 21h. Et le dimanche, il y aura une matinée, comme on disait avant, c'est-à-dire vers 18h, en fait. 18h. Voilà. On sera deux. Il y aura Véronique avec moi, Véronique Verdier. Donc, avec des instruments kalimba, boîte à pouce, tambourin, percussion, triangle. On a travaillé ensemble depuis quelque temps pour créer comme ça un univers sonore acoustique avec le chant. Ce n'est pas forcément sans puissance, au contraire, mais ça peut aussi être des textes qui appellent l'écoute et d'autres plus énergiques. Enfin, voilà. On a un petit répertoire comme ça de chansons rock, folk, acoustiques et quelques-unes que j'appelle des fois berceuses épileptiques, folk rock organique si on veut. Voilà.
Pour chanter, ça va au niveau des tournées ou il y a quelques difficultés de ce côté-là aussi
Par exemple, l'année dernière, j'ai fait très peu de concerts parce que j'ai passé beaucoup de temps à enregistrer ce disque. Enfin, beaucoup de temps, non pas à l'enregistrer, mais ça a été un travail de longue haleine, en fait. Ce qui ne veut pas dire un travail forcené, mais un travail qui a pris son temps sur un an. Parce que ce travail de répétition, comme ça, pour préparer à quelques-uns l'enregistrement d'un morceau, ben il faut du temps, il faut vivre avec les personnes. Finalement, mon idéal, c'est ça. C'est plutôt partager des lieux avec quelques-uns, travailler ou jouer même. Même pas travailler, finalement. Jouer suffisamment pour que le morceau, il commence à prendre sa maturité. Voilà. Et donc ça a pris du temps. Donc l'année dernière, j'ai fait très peu de concerts. Sinon, à la fin de l'année, justement, avec les personnes avec qui on a enregistré. J'ai chanté dans l'atelier, j'ai invité des gens là. Et puis récemment, j'ai fait un concert à la librairie de l'Arbre à Marseille, qui est une librairie qui malheureusement ferme, mais où j'avais exposé. Alors voilà, pour répondre, c'est pareil, j'en sais rien. Je travaille souvent spontanément avec des lieux. J'ai tendance maintenant à presque fuir les lieux qui sont calibrés, lieux de culture, de musique et tout ça, dans l'espoir toujours de rencontrer autrement les gens, autrement la possibilité de concert. Et puis, ce qui est important finalement, c'est de générer un échange. Finalement, ce matin, j'ai chanté Dandy à la terrasse d'un café. J'ai rencontré une vieille dame que j'ai accompagnée. Je lui ai chanté une chanson. C'était des moments sympathiques qui génèrent quelque chose, qui génèrent une rencontre. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, je ne sais pas trop si je veux faire autre chose que ça. Voilà. Il y a une forme un peu de spontanéité, d'aventure, quoi. J'ai envie de vivre comme ça. Voilà.
Ton travail, on peut le voir aussi sur Internet.
Oui. Alors, il y a un site qui... Pour la peinture et la musique, par exemple, il y a un site à mon nom, hervéandré.com. Il y a une page Facebook où je publie souvent les affiches de concerts, les vidéos, et puis des dessins et des peintures. Et puis, il y a une chaîne YouTube aussi à mon nom, où on peut écouter des albums que j'ai mis en écoute libre. Il y en a deux ou trois. Et quelquefois, quelques vidéos. Il y a une vidéo d'ailleurs de Émissaire qui a été enregistrée sur Issue des Tissus. Et c'est la prise qui est sur le disque, avant qu'elle soit un peu mise en forme quoi, pour le disque. Mais c'est la prise directe. Et puis on voit comment on travaille comme ça aussi. Donc il y a YouTube, Hervé André, puis les sites.
Hervé, l'heure passant, on va peut-être terminer avec une chanson. Et il y en a une que j'aimerais bien entendre, c'est « Tu n'es plus le roi ». Et ce titre, cette chanson, c'est toujours issu de quelques mots qui se sont suivis. Oui. Ou alors il y a aussi un discours derrière.
Non, celle-là, je dirais, il y a quelquefois des chansons. Celle-ci, je l'aime particulièrement parce qu'elle a une structure de comptine, en fait. Et les phrases sont venues d'elles-mêmes, comme ça, l'air est froid au-dessus des toits. Et puis, ça fait déjà une empreinte, en fait. La première phrase fait une empreinte sur le nombre, je ne sais pas, c'est une empreinte rythmique déjà. Et puis, il y a une couleur. À partir de là, la suite est venue. Et je me souviens quand même que pour cette chanson, je me suis attaché à garder cette couleur de comptine, un peu étrange, un peu décalée. Et je l'aime bien parce que je trouve qu'il y a une rigueur dans le texte, pas au niveau des images du propos, mais au niveau de son placement rythmique. Ça compte pour moi.
Et puis, je te dis au revoir.
Merci de votre accueil. C'est toujours un plaisir pour moi de venir comme ça dans le Diwa et de passer un moment avec vous. Merci. terre est froid, au-dessus des toits, des maisons de briques, toutes identiques. Dans la cour où courent les rats, tombés tout en bas, près du tas de bois. Un, deux, trois, abracadabra, tu n'es plus le roi, toi le moi. Un air d'effroi au-dessus de toi, à ce que je vois, tu n'es plus le roi. Patatras, février suivra, le mois de janvier, trois petits tas de doigts, petit à petit à petit à, quel fatras.